le 16 février 1989.
Je voudrais encore parler de l'oraison, puisque c'est quand même pour nous ce qu'il y a de principal dans notre vie. La fidélité à l'oraison, ça réclame beaucoup d'attention et surtout une très bonne volonté. Vous voyez, quand l'Esprit Saint nous donne des grâces intérieures de joie, c'est facile d'être fidèle à l'oraison. C'est les fiançailles, sans les radiamés, les rendez-vous. Mais au bout de 20 ans de mariage, on les rate plus facilement. Parce qu'il y a moins de joie sensible. Comme dans l'ordre surnaturel, tout va très vite. Quelquefois, c'est au bout de quelques mois, ou même, il suffit d'entrer dans la communauté Saint-Jean pour que tous les délices et toutes les joies de l'oraison disparaissent. Alors qu'avant, on les avait, c'était merveilleux. J'ai sûrement fait pour une vie contemplative. Là, il y a eu ces grâces d'oraison merveilleuses. Et puis on entre, je ne sais pas ce qui se passe. C'est comme un iceberg qui nous rencontre, puis plus rien. C'est la foi toute nue. Alors si je me suis trompé, pas du tout. L'oraison, ce n'est pas les grâces d'oraison. L'oraison, c'est cette bonne volonté d'exercer la vertu de foi, d'espérance et d'amour. D'avoir au moins dans sa journée un moment où l'on exerce uniquement les vertus dialogales. À l'état pur, sous le souffle de l'Esprit Saint, si l'Esprit Saint veut bien. Parce que vous savez bien, vous ne pouvez pas commander l'Esprit Saint. Je veux l'exercice du don d'intelligence. Il suffit de dire ça pour que le don d'intelligence ne s'exerce pas. On supplie l'Esprit Saint. On frappe à sa porte. C'est assez particulier, la porte de l'Esprit Saint. On frappe à sa porte et on sait que l'Esprit Saint, alors, nous écoute. Il faut le demander à l'Esprit Saint de nous apprendre à faire oraison. Je vous le disais tout à l'heure, ce matin, il faut le demander. L'Esprit Saint nous apprend. C'est lui le maître de l'oraison. Et le grand maître de l'oraison. C'est lui qui nous apprend à faire oraison, c'est-à-dire à exercer divinement notre foi. Exercer divinement notre foi, c'est nous servir de l'Écriture. Il faut servir de l'Écriture à l'oraison. L'Évangile de Saint Jean, la première épître. Et le passage qu'on lisait hier, chapitre 4. Vous pouvez avoir ce petit papier, taper ce chapitre 4 et l'avoir toujours sur vous, puis le relire. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Et puis d'autres passages dans l'Évangile de Saint Jean, sur le paraclet. Il faut avoir des passages qu'on connaît par cœur de l'Évangile de Jean. Et on les répète intérieurement dans l'oraison. Et on supplie l'Esprit Saint, grâce au don d'intelligence, de dépasser la parole pour atteindre le mystère, pour vivre du mystère, pour vivre de la présence de l'Esprit Saint, pour vivre de son souffle d'amour, pour entendre sa voix, pour vivre dans l'intimité avec Jésus, ce cœur à cœur, notre cœur dans le cœur du Christ, et le cœur du Christ dans notre cœur, et vivre au plus intime du Père, in sino patris. Vous voyez, ces trois grandes intimités, habité avec l'Esprit Saint, avec le cœur de Jésus le Père. La raison, c'est un mystère d'intimité, puisque c'est un mystère dans l'obscurité de la foi, de ce don mutuel. On se donne et Jésus nous est donné. Et on le sait qu'il nous est donné. Et c'est pour ça que on peut, et c'est même bon, d'avoir les quelques passages de l'Écriture où il parlait de cette intimité. Le cantique des cantiques, c'est sûr. C'est un grand mystère de raison, le cantique des cantiques. Le cantique spirituel. Qu'on se serve aussi de Saint Jean de la Croix. Vive flamme d'amour. Et certains passages du cantique spirituel. Ça, je crois que c'est très bien. C'est très important. Qu'on ne se tâte pas le pouls pour savoir dans quelle demeure on se trouve. C'est, ça, c'est plus l'oraison. C'est l'attitude réflexive. Donc, on vit de l'intimité avec Jésus. Ça n'a pas d'importance. Si le Saint-Esprit, un jour, vous demande d'écrire un livre sur l'oraison, alors vous demanderez à l'Esprit Saint de vous faire comprendre à quelle demeure vous êtes, mais pas avant. Je crois qu'il faut comprendre le caractère objectif des vertus théologales. Et la raison nous met dans cette ligne d'objectivité, mais d'intimité affective. Une union mutuelle entre Jésus et nous, avec l'Esprit Saint et le Père. Et Marie joue un rôle important. S'il n'y a pas de méthode d'oraison, il y a Marie qui nous est donnée. Et c'est peut-être le petit livre qu'on doit manger. C'est-à-dire Marie telle qu'elle a été donnée à Jean. Et Marie telle qu'elle a été donnée à Jean, elle a donné à Jean tout ce qu'elle a vécu de l'enseignement du Christ, des paroles de Jésus. Elle a donné à Jean tout ce que la bonne terre gardait de la parole de Jésus. Et ça, il faut le demander à Marie. Que Marie nous apprenne avec l'Esprit Saint vers oraison. Elle est la mère de l'oraison. Et d'une oraison toute divine. Et c'est là où Marie nous enseigne. Je crois que ça, il faut lui demander. Je dirais, si on est peut-être pleinement de Saint Jean, pleinement lié à la paternité de Saint Jean, la première chose que Saint Jean fait comprendre, c'est que c'est Marie qui l'a formé à l'oraison. Et Saint Jean désire que Marie nous forme à l'oraison. Et ça, nous devons lui demander. Nous n'avons pas le droit de dire « J'attends que Marie vienne m'enseigner. » Non. On doit lui demander. On doit avoir ses audaces d'enfant. On sait que c'est à cause d'elle qu'on est dans la communauté, que c'est grâce à elle qu'on est dans la communauté. Et donc on sait que c'est par elle qu'on pourra vivre pleinement et totalement de ce mystère de l'oraison. Alors, essayons de comprendre cela, parce que ça, c'est le caractère, je dirais, tout à fait particulier pour nous. C'est peut-être des secrets de famille. C'est Marie qui nous apprend. C'est dans une famille, c'est toujours la mère qui garde les secrets de famille. C'est toujours la mère qui transmet. Parce que c'est la mère qui a la tradition dans ce qu'elle a de plus fort et de plus profond. Et c'est Marie qui nous transmet ses secrets de famille. Comme elle les a transmis à Jean. Comme elle les a communiqués à Jean. Marie veut nous les communiquer. Ça, c'est très net. Elle veut nous les donner. Surtout si nous lui demandons. Évidemment, si on ne lui demande pas, Marie sera très respectueuse de notre liberté. Et elle nous laissera dans un petit coin, seul. Tandis que si on lui demande, alors vraiment, elle nous les livre, ses secrets. Elle nous les donne. Mais des secrets qui sont les secrets du cœur de Jésus, ce n'est pas autre chose, les secrets de Marie. C'est ce qu'elle a communiqué à Jean. Alors, comprenons bien cela. D'abord, en premier lieu, Marie est toujours invitée. Quand on fait oraison, Marie est toujours invitée. Elle est toujours là. Parce que ce qui l'intéresse le plus, c'est notre vie d'oraison. Ce qui l'intéresse le plus. Le reste, ça l'intéresse beaucoup moins. Nos succès apostoliques ne l'intéressent pas tellement. Elle veut qu'on soit de témoins du Christ. Elle veut qu'on aille jusqu'au bout de ce témoignage vis-à-vis du Christ. Mais ce n'est pas ça qu'elle regarde en premier lieu. Nos facilités au point de vue études, ce n'est pas ça qui l'intéresse en premier lieu. Elle est très heureuse que nous aimions la recherche de la vérité. Elle est très heureuse de voir qu'on ne perde pas de temps. Marie ne peut pas supporter des enfants qui perdent du temps en se regardant. Elle ne peut pas supporter ça. Ça, je vous affirme. Et elle devient farouche là-dessus. Parce que Marie est une mère terrible. Quand elle aime, pire qu'une tigresse. Terrible. Elle ne veut pas qu'on perde du temps à se regarder. Parce que c'est une perte pour l'éternité, ça. Elle veut qu'on soit vraiment docile à l'Esprit Saint et que notre unique souci soit d'être docile à l'Esprit Saint. Et ça, c'est net. Et elle veut que nous soyons très dociles à tout ce qu'elle nous demande et réclame. Quand on se regarde, on perd du temps. Intellectuellement, physiquement, vous voyez, des tas de manières de se regarder, de se tâter le pouls. Cette manière de se tâter le pouls, à la chinoise. N'est-ce pas ? Eh bien, Marie n'aime pas ça. Elle n'aime pas ça. Elle veut qu'on soit entièrement donné. Et elle nous apprend à vivre des vertus théologales dans cette objectivité, la présence de Jésus. Il est toujours présent. Mais si on avait une petite vision de Jésus et qu'on venait nous parler à côté, on dirait, mais non, il est là. Et on écouterait. On serait tout entier tourné vers Jésus. Or, on a beaucoup plus que les apparitions. Les vertus théologales, c'est plus que les apparitions. Et les vertus théologales nous font découvrir Jésus présent. Dans la foi, Jésus est présent, plus intime de notre cœur. Pas de distance entre Jésus et nous. La Marie nous apprend à vivre tout ça. Cette présence constante, ce regard de Jésus sur nous. Et nous le regarder et l'aimer. Et vivre dans cette présence très simple, mais très aimante, qui fait que tout est donné. Marie est toujours invitée, toujours. Elle ne peut pas se désintéresser de notre oraison. Oui, elle s'intéresse plus à notre oraison que nous-mêmes. Et elle veut que nous progressions dans l'oraison. Alors, les progrès dans l'oraison, faisons attention, hein. On ne les voit pas. On ne les voit pas. Il faut accepter de ne pas les voir. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on fait du... Ouais, on reste toujours au même endroit. Mais c'est vrai, c'est vrai. Parce que les progrès de l'oraison, c'est les effets de l'oraison. Et les effets de l'oraison, c'est pas l'oraison. Et l'oraison reste toujours un mystère. Il faut accepter en portant de vous ce mystère d'amour. On ne peut pas dire, on va avoir les étapes successives, premier degré. Pendant le noviciat, oui, c'est premier degré, avec la profession second degré. Troisième degré, les demeures successives. Non, non, non. Surtout pas. qu'avec Marie, dans notre raison, il fallait plus chercher les diverses demeures de Sainte Thérèse ou de Saint Jean de la Croix, qu'on avait beaucoup plus parce qu'on avait Marie. J'aime beaucoup ça. Et je crois que c'est très vrai. Celui qui se donne entièrement à Marie sait que par Marie, Jésus lui est donné pleinement. Et que par Marie, on avance dans le mystère de l'oraison selon le rythme de Marie. Or, Marie n'a pas vécu les demeures de Sainte Thérèse. Elle a vécu bien plus. Puisque tout de suite, dès le point de départ, elle était plus élevée que les demeures de Sainte Thérèse. Au tir des plus grands saints. Marie a commencé là où les saints terminaient. C'est une plénitude de grâce, on est. Et donc, son oraison, dès le point de départ, est au sommet de ce que Sainte Thérèse dit. Et si Marie nous est donnée pour que nous vivions avec elle de l'oraison, elle vient tout de suite. On va beaucoup plus loin. Et ça, il faut y croire à ça. Non pas du tout pour se glorifier, c'est pas en raison de nos mérites, c'est pas en raison de nos vertus, c'est pas en raison de la qualité de notre intelligence et de notre cœur. C'est de la pure gratuité, on est les petits derniers, les petits Benjamins. Et les petits Benjamins ont besoin de leur mère, beaucoup plus que les autres. Et on le sait, et on lui demande d'être là. Et on sait que sans elle, c'est impossible, on ne peut pas avancer. On est tout le temps distrait quand Marie n'est pas là. On est comme des gosses, vous savez. Dès qu'un rossignol chante, on n'écoute plus rien du tout. Dès qu'il y a un moindre bruit dans la nature, on n'écoute plus rien du tout. On est comme ça dans l'oraison. Vous voyez, si chaque fois que vous aviez une distraction, il y avait un signal, hein, je ne sais pas ce qu'il y aurait. Hein. On verrait des tas de signaux au-dessus de la tête de chacun. Rouge, bleu, orange. C'est vrai, chaque fois qu'il y avait une distraction, il y avait ça. Mais une mère ne s'occupe pas beaucoup des distractions de son enfant. Elle continue de prier. Quand une mère prie avec des enfants, la mère va me dire, mais tais-toi, ne regarde pas ça. Mais non, c'est les autres qui disent ça. Une mère, elle continue de prier. Elle trouve ça tellement normal que le gosse s'intéresse au rossignol. Et non pas à Jésus. Elle sait bien que le rossignol est bien plus intéressant pour le gosse. Que le gosse comprend bien mieux le rossignol qu'elle. Alors elle ne s'inquiète pas. C'est ça la miséricorde de Marie. C'est qu'elle ne s'inquiète pas de ça. Et elle continue de nous porter et de nous prendre. Oui, c'est extrêmement instructif de voir comment une mère prie avec ses enfants. Une vraie mère qui prie avec ses enfants. C'est admirable. Ça m'enseigne plus que tous les livres. Parce que c'est quelque chose de très grand. Elle les porte en priant. C'est sa prière qui les porte. Et elle va vous inquiéter, même si le gosse roule par terre. Et c'est plutôt la géniflexion fait qu'on est facilement par terre. Mais ça ne m'inquiète pas du tout. Elle continue. Le père, peut-être, il fait des gros yeux. En regardant le vent, vite, à genoux. Et la mère continue. Et la Vierge Marie est comme ça pour nous. C'est ça qui est merveilleux. Si on lui demande de nous apprendre à faire oraison, elle nous apprend à faire oraison comme ça. Et elle est là de l'intérieur, qui de temps en temps nous rappelle avec force. Notre prière est en elle, est avec elle, c'est sa prière. Vous lui demandez de nous apprendre à prier, faire des actes de foi avec elle. Faire des actes d'espérance avec elle, faire des actes de charité avec elle, et lui demander de nous aider. Marie, elle est conseillère des noces, comme dit saint Thomas, conciliatrix nuptiarum. Elle est conseillère des noces, elle est celle qui présente, je vous disais ce matin, présente les pommes du paysan avec un plateau d'argent. Un plateau d'argent, c'est pas nous, c'est elle. Et saint Thomas va plus loin que saint Grignon. est présente et elle nous offre à Jésus. Elle nous porte à Jésus. C'est nous qu'elle porte. Dans son cœur, le plateau d'argent, c'est son cœur. C'est un plateau d'or même. Elle nous offre dans son cœur. Elle nous prend dans son cœur et elle nous offre avec elle. Et on est affaire avec elle. Le véritable autel, c'est le cœur de Marie, hein, vous le savez bien. Et donc, elle nous prend dans son cœur et elle nous offre. C'est ça qu'elle fait dans l'oraison. Et Marie ne s'inquiète pas tellement, j'allais dire, de ce que nous faisons. Ce qu'elle veut, c'est que nous ayons bonne volonté. Ça, oui. Elle veut que nous ayons une bonne volonté, c'est-à-dire que constamment nous revenions à ce désir de tout donner et de ne rien refuser. C'est ça la bonne volonté. La bonne volonté, c'est tendre vers la ferveur. C'est-à-dire que tout le capital d'amour que nous avons puisse s'actuer et s'actuer pleinement, s'exercer dans l'oraison. Qu'on puisse faire des actes de foi, d'espérance et d'amour qui nous saisissent entièrement et toutes nos énergies, qu'il n'y ait rien à côté et que tout soit pris. Vous voyez, c'est ça la mobilisation générale de tous nous-mêmes pour être offerts par elle. Et ça, Marie le réalise. Vous voyez, Marie est la mère de notre oraison parce qu'elle nous porte, parce qu'elle nous permet d'actuer en nous pleinement la foi, l'espérance et l'amour. C'est celle qui nous porte au plus intime d'elle-même. C'est ce qu'elle disait au petit Indien quand on regarde à Mexico la Vierge qui apparaît là-bas, la Vierge de Guadeloupe. Vous savez bien que c'est pas du tout de Guadeloupe. C'est pas ça que ça veut dire la Vierge Mère de Dieu. Dans le langage de l'Indien, mais comme c'est les Espagnols qui ne connaissaient pas le langage des Indiens, ils ont cru que la Vierge parlait espagnol, mais non, elle parlait indien, pour le petit Indien. C'est très beau, ce passage, c'est merveilleux. C'est très étonnant, du reste, c'est une icône étonnante, puisque dans l'image de Marie se reflète dans les yeux ce que les personnages qui étaient devant, actuellement encore. C'est une chose étonnante, c'est une espèce de miracle imprimé. Il y a le Saint-Suaire et puis ça. Ce sont des tissus, c'est des icônes du Christ crucifié et puis de la Mère de Dieu. C'est beau. La joie d'aller là-bas pour prier la Vierge Marie là-bas. Et le texte est magnifique, il faut le reprendre de temps en temps. Parce que quand Marie parle au petit Indien, ne pas avoir peur, il faut lire ça pour l'oraison. Je te porterai dans mon giron. On voit la mère qui porte dans le giron. Et alors, à ce moment-là, tu n'auras pas peur. Et Marie nous porte comme ça. Elle nous nourrit. Elle nous nourrit la parole de Dieu, comme elle a nourri Jean, qu'elle a nourri Saint Jean. Et puis, elle nous donne tout ce qu'elle a, tout son présent d'amour. Elle est conseillère des noces en nous prenant dans son cœur et en nous faisant vivre ce qu'elle-même a vécu. Le cantique des cantiques. Le cantique des cantiques. Il n'y a que Marie qui l'a vécu avec Jésus. Mais nous pouvons le vivre avec elle. Et nous devons le vivre avec elle. Et le cantique des cantiques représente la grande révélation de l'oraison. C'est le grand mystère de l'oraison, le cantique des cantiques. Et c'est à partir du cantique des cantiques que nous pouvons comprendre ce que doit être ce mystère d'intimité. Mais c'est Marie qui nous l'explique. Quand vous lisez le cantique des cantiques, surtout à l'oraison, lisez-le toujours dans la lumière de Marie, tout le temps. Et il faut vivre le cantique des cantiques dans la lumière de Marie. Alors à ce moment-là, c'est quelque chose de très simple et de merveilleux. Parce que c'est la grande intimité avec Jésus. L'intimité d'amour. C'est le désir de Jésus qui s'exprime sur nous. C'est la soif de Jésus de voir que n'hésite pas de dire, en commentant mystiquement Cana, que les noces de Cana, c'est le mystère de l'oraison. C'est extraordinaire. C'est une audace folle, oui. Je crois qu'aucun père de l'Église ne l'a dit, et que saint Thomas seul l'a dit. Parce que ordinairement, saint Thomas donne ses références quand il y a un père de l'Église. Là, il ne le donne pas. Donc, c'est lui qui a découvert que mystiquement, les noces de Cana, c'était l'oraison. Et donc, que l'oraison, c'est des noces de notre âme avec Jésus. C'est-à-dire, cette intimité profonde d'un don réciproque. On est entièrement donné. Et Jésus nous est entièrement donné. On n'a qu'un seul désir, c'est de vivre avec lui. Et lui n'a qu'un seul désir, c'est de vivre avec nous. Et c'est cette rencontre et ce deux amours qui ne font qu'un. Quel mystère de l'amour, quel mystère de l'oraison. Vous voyez, je crois que c'est ça que nous devons saisir intérieurement et vivre intérieurement de ce mystère de l'oraison, de cette intimité extraordinaire, mais très simple, puisque c'est l'amour avec Jésus et avec le cœur du Christ. Par Marie, avec elle. Nous-mêmes, nous sommes impossibles. Parce que si on ne peut pas, si tu cantiques des cantiques, c'est impossible. Tandis qu'avec elle, oui, c'est possible. Parce qu'elle l'a vécu. Et elle l'a vécu pour nous. Et alors elle nous le donne. Tous les trésors de son cœur. Marie ne garde jamais un trésor de son cœur pour elle seule. Elle nous communique. C'est dans ce sens-là qu'elle est la reine des apôtres. Parce qu'elle est mère. Et elle communique tout ce qu'elle a. De trésor de son cœur à ses petits-enfants. Et c'est là le rôle apostolique de Marie, si je vous dis. C'est au niveau de l'oraison. C'est au niveau de cette communication profonde de tous ses secrets qu'elle veut nous donner pour que nous puissions participer à ses secrets et vivre de ses secrets. Ses secrets, c'est le grand mystère de la compassion dans le cantique des cantiques. Il y a des textes du reste qui sont très nets, qui montrent bien, qui ne peuvent se comprendre que dans la lumière du cantique des cantiques et de la compassion. C'est la compassion qui fait comprendre cette unité profonde du cœur de Marie avec Jésus. C'est le mystère de la compassion qui fait comprendre ces noces d'amour, où nous sommes entièrement saisis et pris. D'être entièrement pris par lui. Il ne doit plus y avoir de dualité, il ne doit plus y avoir que l'unité avec lui. On fait la même œuvre, et on a le même vouloir d'aimer le Père, le même vouloir de sauver les hommes. Mais c'est dans ce sens-là que l'oraison peut avoir cette note apostolique. On porte les pécheurs, et on les porte à Jésus, et on les confie à Marie. Et on les porte tous. Et on ne quitte pas Jésus en regardant les pécheurs. C'est à travers le cœur de Jésus que nous regardons les pécheurs. C'est à travers le cœur de Jésus que nous les portons. Et que nous n'avons pas le droit de les laisser sans les prendre. Vous voyez, la petite Thérèse, patronne des missions. Et avant elle, Marie, reine des apôtres. Et Marie n'a jamais fait d'apostolat effectif. Elle n'a jamais fait d'apostolat effectif. Marie, reine des apôtres, par son témoignage et par son amour pour Jésus et son amour pour nous. Elle nous aime tellement qu'elle nous donne le meilleur de son cœur. Vous ne faut jamais l'oublier, ça. Parce que c'est peut-être le propre des apôtres de la Vierge Marie, c'est de pouvoir communiquer les trésors de leur cœur. Évidemment, ça ne va pas se faire du haut de la chair. Sauf des cas très exceptionnels. Mais dans des retraites, des contemplatives, Marie permet qu'on livre comme les secrets de son cœur. Et dans des retraites, des contemplatives, on peut et on doit pouvoir vivre de cela. Ne prêchez pas trop vite le cantique des cantiques. Non. Attendez d'avoir 60 ans. Si Dieu vous prête vie. Et si le Christ ne revient pas avant. gardé d'avoir 60 ans. Parce que c'est... Et puis ne prêcher que dans le Carmel, où j'ai nos sœurs contemplatives, où j'ai les Clarisses. Ça, on le peut. Mais même à la Visitation, il faut faire un petit peu attention. Saint-François de Sales, c'est très discret. Alors, il faut faire attention. Mais aux cisterciennes, oui, parce que Saint-Bernard a pris le Cantique des Cantiques. Et Saint-Bernard lisait le Cantique des Cantiques. Commenter le Cantique des Cantiques au chapitre. C'est bien. Mais, autrement dit, les chapitres, ça dure un petit moment. Mais, parce qu'il faisait là un commentaire du Cantique des Cantiques. Donc, c'était l'appel à l'oraison. C'est pour ça que Saint-Bernard est si proche. Il y a comme une proximité entre Saint-Bernard et Saint-Dominique qui est très grande, parce qu'il y a cette contemplation. Et cette contemplation, dans l'intimité la plus grande, grâce à Marie. Saint Bernard aime follement Marie. Ça, c'est sûr, c'est un des saints qui aime la Vierge Marie d'une façon étonnante. Et c'est grâce à Marie que, de fait, il peut être si proche et vivre le Cantique des Cantiques. Donc, quand vous lisez le Cantique des Cantiques, lisez-le dans la lumière de Marie et de Jésus. Et puis plus tard, si le Seigneur vous permet, c'est une grâce de pouvoir commenter le Cantique des Cantiques au Carmel. Mais il ne faut pas le faire trop jeune. Ça, c'est un fait. Et on comprend très bien. Parce que c'est trop intime dans les analogies. l'exercice des vertus théologales sous l'emprise des dons du Saint-Esprit à travers le Cantique des Cantiques. Et dans le Cantique des Cantiques, pour entrer pleinement dans cette intimité si forte que désire Jésus avec le mystère de Jésus au moment où il se donne à la croix et au moment où il se donne pleinement à la croix, c'est toujours actuel, c'est toujours éternel. Et donc, c'est cela qu'on doit vivre. C'est le mystère de Jésus qui s'offre aux mères. C'est le mystère de Jésus qui en s'offre aux pères nous sauve. Et nous relie à lui pour que nous coopérions à ce regard de Jésus sur le Père, pour que nous vivions de cela et que nous en vivions pleinement. Je vous ai déjà dit, je le reprends en terminant ici, que pour nous, Cantique des Cantiques, le dialogue de Jésus avec Nicodème, mystique de ce que représente la raison, le fruit direct de la grâce. La raison qui nous conduit à la contemplation doit nous faire vivre de la présence de Marie. On coopère avec elle. C'est pour ça que vous tout de suite l'invitez. Et vous lui demandez d'être là. Et vous lui demandez de faire notre imagination. Parce que si vous voulez la faire taire par vous-même, vous l'agiterez encore plus. Donc demandez à Marie de faire taire votre imagination. Et Marie peut la faire taire. Vous demandez à Marie de maintenir notre bonne volonté en acte. Pas d'une façon virtuelle, mais en acte. Pour ne pas perdre de temps. Tient cette bonne volonté par elle. C'est pour ça que c'est elle qui doit maintenir en nous cette bonne volonté, au-delà de tous les caprices imaginatifs, au-delà de toutes les rêveries, au-delà de toutes les agitations. Marie forme tout de suite un climat et un milieu dans lequel on peut vraiment dire notre soif et notre désir d'aimer Jésus. C'est de lui que nous recevons la grâce, la foi, l'espérance et la charité. Et nous voulons vivre avec lui ce mystère d'offrant de tout lui-même au Père. Et la raison alors sera cette offrande de tout nous-mêmes au Père, avec Jésus, avec Marie. Et c'est là qu'on peut comprendre que la raison nous fera vivre mystère de la compassion. Marie a combattu à l'agonie, à la croix, au sépulcre, les trois grands moments de la compassion de Marie. Elle a vécu cette unité avec Jésus et elle veut nous faire vivre cette unité avec Jésus. Elle a vécu cette unité plénière. Elle a vécu ce moment important où Jésus, une fois pour toutes, s'offre. Et il entraîne Marie dans la même offrande du Père. Et il nous entraîne dans la même offrande du Père. Et c'est à ce moment-là que sous le souffle de l'Esprit Saint, nous disons Abba Pater, comme le moment le plus élevé de toute la raison. Dans notre cœur. nécessaire. Et ce mystère du don de toute mère avec Jésus dans l'offrande de sa vie. Il offre sa vie pour glorifier le Père. Et l'oraison glorifie le Père avec Jésus en Marie. Et l'oraison sauve nos frères avec Jésus en Marie. Et nous vivons alors ces différents moments, nous pouvons vivre ces différents moments de la compassion, l'agonie, la croix et le sépulcre. L'oraison nous fait vivre de la présence. Est quand même une anticipation de la vision béatifique. C'est ça le mystère de l'oraison. Si on veut comprendre l'oraison théologalement, il faut regarder l'oraison comme une anticipation de la vision béatifique. Et tout ce qui est de la vision béatifique est vécu dans l'oraison. Mais seulement ce qui est de la vision béatifique. Or, dans la vision béatifique, Dieu sera tout en nous. Jésus parlant à Nicodème. Jésus conduisant. morale. Ils n'ont pas compris. C'est très bien, les vertus morales. Il faut les acquérir. Et c'est pas drôle. Ça demande beaucoup de luttes. Mais il faut surtout les dépasser. Si nous restons au niveau des vertus morales, nous ne comprenons rien à l'action d'Esprit Saint sur nous. Et nous risquons toujours de l'arrêter. Alors il faut vivre au-delà, dans l'Esprit Saint. Vivre des vertus théologales sous le sceau de l'Esprit Saint. Vivre de cette naissance éternelle d'enfant de Dieu. C'est tellement grand. Vivre à la manière du Père, comme le Père vit éternellement. Vivre éternellement de cette manière-là, puisque nous sommes enfants et nous sommes véritablement. Et donc, la vie du Fils, c'est celle du Père. Vous voyez la filiation. Voilà la paternité de Saint Jean. C'est de vivre de ce que lui-même a vécu. Puisque ce Père est un Père divin, communique